Les cours du Collège de France, Lydéric Bocquet, chaire Innovation Technologique, Liliane Bettencourt.
Bonjour à tous, merci d'être là. Et aujourd'hui, on va parler, et pendant deux cours, on va parler de système ionique. Système ionique en interaction coulombienne, le transport des ions, et un tout petit peu de stockage. Mais Patrice Simon, qui fait le séminaire juste après, en parlera plus amplement. Et donc, les systèmes ioniques, c'est un sujet qui est absolument considérable. Et qui est souvent assez complexe et subtil. En même temps, c'est un sujet qui est à la fois très fondamental et à la fois dont les implications sont absolument universelles. Donc depuis le stockage électrochimique, les membranes. Là, j'aime bien cette citation anonyme, c'était dans un abstract d'article, Life is too short for electrolytes, et ça résume assez bien, en fait, la situation. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est à la fois très ancien, puisqu'il a plus de 100 ans, voire même 150 ans, si on réfléchit, et qui est à la fois extrêmement moderne, d'une part par les applications, ce que je disais juste avant, mais aussi parce que régulièrement, il y a des nouvelles propriétés qui émergent sur les systèmes ioniques. Et ça, c'est absolument pas... c'est assez inattendu, et ça montre que le domaine est extrêmement vivant. Et en fait, si je devais être réaliste, c'est un cours que j'aurais dû faire sur, limite, 20 heures. Enfin, c'est... Pour faire le tour et encore. Mais là, je vais prendre juste 2 heures, plus quelques... les cours qui vont suivre utiliseront aussi le transport ionique. Mais donc dans 2 heures, je ne peux rien faire, évidemment. Donc je vais choisir quelques points de vue assez particuliers. Et donc le choix que j'ai fait, c'est de parler aujourd'hui... Je vais introduire les concepts, entre guillemets, de transport ionique, mais aussi de tamisage. Les tamisages, j'ai pris la perspective applicative, en fait. C'est-à-dire, pour les membranes, notamment, ce qu'on veut, c'est on veut dessaler, par exemple, et on ne veut pas que le sel traverse une membrane. C'est quoi la condition pour qu'un sel traverse une membrane? Donc, c'est une question très pratique. Et puis, ça me préparera aussi pour le dernier cours sur l'énergie bleue et l'énergie osmotique. Et le deuxième, donc aujourd'hui je vais vous parler de ça, et la semaine prochaine, je vous parlerai d'un côté axé fondamental en tout cas sur le transport non linéaire, explicitement, et notamment sur les phénomènes de ce qu'on appelle d'appariement, et comment ça permet d'avoir des réponses non linéaires, et je vous montrerai comment avec ça on peut aller jusqu'à des réponses neuromorphiques, c'est-à-dire essayer de mimer des comportements type neurones, etc. Donc, si je résume rapidement les systèmes ioniques, je vous ai dit, c'est le cœur même de tout le domaine des membranes, c'est-à-dire si on veut dessaler une nouvelle fois, on fait passer des ions à travers des pores, et la taille de ces pores est de l'ordre de quelques angstroms, si on peut définir une taille de pore, et donc il faut que l'ion interagisse, et ça pose plein de questions. En biologie, évidemment, les ions sont au cœur de toutes les fonctions qu'on puisse imaginer. À la fois les fonctions neuronales, puisqu'il y a énormément d'échanges. Il y a des petites pompes ioniques, comme je montrais ici sur ce petit film, qui est une sorte de sketch qui est complètement irréaliste, mais qui vous dit bien qu'il y a beaucoup de systèmes actifs dans le corps qui sont capables de transporter des ions, etc., etc. Enfin, c'est d'une richesse absolue. Là, ce que je vous montre ici, c'est un exemple qui est intéressant, qui a été beaucoup étudié par Pascal Martin de Curie, c'est l'oreille, en fait. L'oreille, c'est un système d'une sensibilité incroyable et qui utilise du transport ionique de façon extrêmement subtile. Bref, on peut multiplier, il y a des milliers d'exemples pour le transport dans les fonctions biologiques. Et évidemment, tout ce qui est stockage, mais là, je vous renvoie vers le cours de Jean-Marie Tarascon et vers le séminaire de Patrice qui va suivre. Parce que pourquoi... Finalement, je me suis rendu compte en préparant ce cours que finalement, tamisage et stockage, c'est la même question, mais dans deux cas limites extrêmes. C'est-à-dire le tamisage, c'est vous avez des ions qui veulent traverser une membrane et en fait, vous faites tout pour l'exclure. En fait. Et finalement, le stockage, c'est faire exactement l'inverse. C'est-à-dire ce que vous voulez, c'est qu'il y ait le maximum d'ions qui viennent à l'intérieur. Et donc, les questions qu'on va se poser essentiellement dans ce cours, c'est dire qu'on a un réservoir d'ions, et ce réservoir est en contact avec une structure poreuse, ou un port unique ou des multiports. Et la question qu'on va se poser, c'est combien il y a d'ions à l'intérieur. Et si c'est de nombre d'ions, on arrive à se débrouiller pour qu'il soit zéro, c'est le tamisage. Si on arrive à ce que ce soit l'infini, c'est qu'on a réalisé une fonction de stockage idéale. Mais finalement, c'est la même physique qui va gérer les deux. Donc, si je reviens au tamisage, essentiellement, la vision qui est suivie, c'est une vision assez basique quand on regarde les domaines des membranes. Et cette fonction assez basique, c'est de dire que les ions ont des diamètres hydratés, c'est-à-dire typiquement un ion plus, il aura autour de lui un certain nombre de molécules d'eau. Par exemple, ici je m'intéresse beaucoup à l'eau comme solvant, mais j'utiliserai un peu tout à l'heure des liquides ioniques comme exemple. Et donc on a un diamètre hydraté, et la question c'est est-ce que ce diamètre hydraté rentre ou pas dans un port ? Donc c'est une vision, comme j'avais mis dans la leçon, c'est une vision de Shadock, c'est-à-dire meumeuzozo, c'est-à-dire ça rentre ou ça rentre pas, et ça dépend vraiment de la taille, et c'est cette vision de Sealing. En pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué, on va regarder un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, ça rentre pas, en termes d'énergie typique, etc., et qu'est-ce qu'on peut espérer. Mais avant de décrire ça, je voudrais quand même passer un tout petit peu de temps sur finalement ce qui caractérise l'objet de ce cours, c'est-à-dire la nanofluidique, le transport des fluides aux nanoéchelles. Et ce qui a changé, c'est que, comme je vais essayer de vous le dire lors des cours précédents, c'est qu'on a été capable depuis, on va dire une dizaine d'années, un peu plus, un peu moins, ça dépend des systèmes, de faire des ports ultra contrôlés. C'est-à-dire que, évidemment, quand on veut s'intéresser aux membranes, on a des mètres carrés de membranes, et c'est ça qui est important, parce qu'on veut faire des volumes énormes ou des supercondensateurs, on veut des grandes surfaces. Mais ici, l'idée, c'est de revenir au système élémentaire pour essayer d'en déduire des leçons générales. Et ça, c'est vraiment le point clé qui est développé. C'est difficile de... Je ne vais pas faire un cours sur les méthodes de fabrication de ces systèmes. Ça serait fatigant et pas forcément très intéressant. Mais finalement, on se rend compte dans le temps du laboratoire, et vous pouvez demander à mes étudiants, c'est la grosse partie du temps, c'est de fabriquer ces systèmes. Et donc, dans les systèmes, j'ai classé ça 0D, 1D, 2D, c'est purement par convention. 0D, c'est juste dire que, évidemment, on a beaucoup de systèmes bidimensionnels qui ont été développés depuis le graphène jusque tous les systèmes qui sont développés actuellement. MOS2, il y a les systèmes de Maxine, même si là c'est des multilayers. Et dans ces systèmes-là, on sait faire des trous de taille nanométrique. Et donc là, je vous montre par exemple, c'est un exemple d'un article, il y a quelques années, d'un trou de subnanométrique dans une membrane de MOS2. Et le transport ionique à travers ça a donné des résultats bizarres de blocage de Coulomb, justement, et ça j'y reviendrai la semaine prochaine, en fait, plutôt. Tous les systèmes 1D, c'est l'utilisation des nanotubes. Donc nanotubes, nanotubes de carbone, nanotubes de borazote. Et il y a eu diverses approches pour essayer de regarder le transport à l'échelle d'une nanotube individuelle. Donc nous, on a regardé ça, comme je l'avais montré, j'avais montré un film dans la leçon inaugurale, en insérant des nanotubes dans des membranes, c'est ce qu'on continue à faire. Mais il y a eu d'autres, des collègues qui ont développé des plateformes où, en fait, ils déposent un nanotube sur une surface et ensuite construisent autour de ça un système microfluidique. Donc avec ça, on peut mettre des électrodes et mesurer des choses. Et évidemment, le système qui a été développé depuis 2016, donc vous voyez, ça ne fait pas si longtemps que ça, ou utiliser tout ce qu'on appelle le collage de Van der Waals pour fabriquer des canaux où le graphène ou autres matériaux sont utilisés comme espaceurs entre des plans, des cristaux de graphite ou de HBN, etc. Et donc ça, ces systèmes-là, ce qui est, d'une certaine façon, moi je vois ça un peu comme une révolution, c'était développé notamment par Manchester, évidemment par Geim, qui a développé tous ces systèmes-là, d'abord pour l'électronique. Mais c'est une sorte de révolution parce que c'est la première fois qu'on sait contrôler la taille des ports à n fois 3,4 angstrom et de façon ultra précise. Et d'autre part, l'ensemble de ces systèmes, ce qui est intéressant aussi, c'est que les propriétés des matériaux confinants, on peut les faire varier. Ça peut être du HBN qui est très isolant, ça peut être du graphite qui a sa structure un peu particulière, ça pourrait être des systèmes composites, graphite HBN, etc. etc. Un exemple un peu extrême, c'est... pour décrire un petit peu plus, voilà, ça c'est typiquement, je vais lister quelques expériences qui ont été faites par exemple. Ça c'est des premières expériences qui ont été faites il y a quelques années, en 2016 je crois, ou 2014, j'ai oublié, du transport, le flux d'eau au travers de nanopores comme ça, individuels, en fonction de la taille du nanopore. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire qui est sorti de ces expériences, mais c'était déjà un tour de force de les avoir réalisés. Et évidemment, du point de vue innovation, application, un des intérêts, c'est de se poser la question, est-ce que ces membranes-là, elles ont un intérêt pour, comme membrane de dessalement, par exemple. Et il y a tout un travail de Rohit Karnik, qui est au MIT, qui, lui, prétend que le graphène peut être upscalé et peut être vraiment utilisé comme membrane pour le dessalement. Alors, ça pose énormément de questions, parce que vous voyez, faire des centaines de mètres carrés de graphène, c'est quand même assez compliqué, mais sur certaines applications, ça peut être pertinent. L'avantage énorme de tous ces membranes, c'est que, évidemment, un flux d'eau à travers une membrane, ça sera typiquement R carré fois un gradient de pression, et ce gradient de pression, ça sera la différence de pression sur l'épaisseur de la membrane. Si la membrane, grossièrement parlant, elle fait 3 angstroms, ce qui est l'épaisseur du graphène, on a des gradients de pression gigantesques et donc évidemment des perméabilités gigantesques. Donc ça, c'est l'espoir un peu de ces membranes bidimensionnelles. Ça, c'est les ports 0D, les ports 0.0. Ça, c'est une sorte de port ultime. C'est dans ces membranes 2D, ne pas faire de trous et se dire que le graphite ou le HBN a une structure en hexagone et se dire que ces systèmes peuvent éventuellement faire passer des protons à travers les cercles. Ça reste discuté, parce qu'évidemment, pour pouvoir avoir des manipules contrôlées là-dessus, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de trous, donc de défauts intrinsèques au graphène ou HBN. Ces expériences, donc Marcelo Lozada, notamment, qui sont Lozada Hidalgo, qui a fait beaucoup ça, viendra fin mai lors du workshop, il en reparlera de tout ça. Mais il commence à avoir un fond d'expérience qui est extrêmement intéressant, parce que là, on commence à voir comme une sorte de filtration ultime, parce que il y a vraiment que H+, il n'y a que le proton qui peut passer à travers cette membrane. Parce que vu la taille du... Ici, la taille de quelques angstroms de l'espace. Donc là, c'est du tamisage qui est, on peut dire, purement quantique, puisque c'est vraiment lié à la longueur de De Broglie associée à l'espace libre ici. Bon. Donc ça, je montre un peu comme une curiosité, mais c'est un exemple extrêmement intéressant. Bon, j'ai parlé des nanotubes, il y a différentes voies, je vais aller peut-être un peu plus vite. Ce que j'appelle les angstroslides, c'est les systèmes bidimensionnels. Les types d'expériences qui ont été faites, il y en a une partie qui est finalement assez pédestre, on va dire. C'est-à-dire qu'à travers ces systèmes, la première chose à faire, c'est d'impliquer un voltage et de mesurer un courant. Et par une méthode de ce courant, mais aussi en ajoutant des gradients de salinité, on peut en déduire la mobilité des ions. Donc par exemple, ici, ces expériences, la première chose qui a été faite dessus et qui est continue à être fait, c'est se dire on peut mesurer la mobilité de plein d'ions suivant leur diamètre hydraté au travers de ces systèmes. Finalement, de loin, il n'y a pas grand-chose d'extrêmement surprenant là-dedans. C'est-à-dire les ions petits et monovalents passent très bien, les gros ions multivalents passent beaucoup moins bien, la mobilité se chute drastiquement. Il y a des différences, évidemment, par rapport à la mobilité des ions dans le bulk. Donc, par exemple, ici, c'est une autre courbe. Ça, dans le bulk, c'est ici. Les mobilités sont beaucoup bien inférieures. Mais finalement, ça dépend un peu. Enfin bon. Quelle leçon tirer de tout ça, c'est pas complètement clair en fait. Est-ce qu'on peut. Et au moins, on a des mesures pour la première fois. Et. Alors, pour au lieu de vous lister des pages et des pages d'exemples, parce que finalement, il y a eu beaucoup de travaux dans cet esprit-là, je vais vous prendre un exemple typique de ce qu'on a réalisé, nous, au laboratoire. C'est qu'on a les premières expériences qu'on a faites, c'était de mesurer le transport au sein de nanotubes de borazote et de nanotubes de carbone. Et ce qu'on fait comme expérience, typiquement, c'est de mesurer la conductivité en fonction de la concentration en sel. Et bon, la conductivité, c'est le nombre de porteurs de charge. Donc normalement, quand on est en volume, c'est linéaire en concentration. Et dans toutes ces expériences, on voit qu'à très forte concentration de sel, on a bien une conductance qui est linéaire en sel. Mais après, on a deux comportements. Oui. Pour le BN, ce qu'on voit, c'est que ça sature en dessous d'une certaine concentration. Et pour le carbone, alors ça dépend beaucoup de la taille du nanotube, vous voyez, de 35 nanomètres à 3 nanomètres, ici, sur ces expériences. Eh bien, pour les nanotubes de carbone, ce qu'on voit, c'est plutôt une loi d'échelle, ici. Donc là, ici, c'est une pente 1, GC, ici, c'est plutôt une pente 1 tiers. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Alors, il y a deux choses. C'est que là, d'une part, pour le BN, le fait que ça sature ici, en fait, comme la conductance est donc de porteur de charge, ça dit juste que les porteurs de charge qui restent lorsque je n'ai pas ajouté de sel, finalement, ça veut dire que dans le nanotube, il me reste des charges à la surface des nanotubes. Et donc, si j'ai une densité de charge sigma, ça veut dire que j'ai un nombre de contre-charges positives qui viennent compenser la charge sur la surface. Et donc, la conductance, c'est ce nombre de contre-charges, et donc la conductance, c'est la charge de surface. Et donc, ces expériences-là, par exemple, elles permettent de dire, sur le BN, on peut extraire d'une charge de surface. Et d'ailleurs, ici, la concentration à laquelle il y en a une transition, on retrouve un nombre que j'ai décrit précédemment, c'est le nombre de Dukin, c'est qui dit que à cette zone-là, on passe d'un régime de bulk à un régime de surface. Et ça, c'est induit par le nombre de Dukin. Et donc, l'endroit où ça se casse ici, une concentration ici, ça nous permet d'en déduire. Ça arrive quand le Dukin est d'ordre 1, grossièrement. Donc ça permet de dire, la charge de surface, c'est la concentration de crossover fois le rayon. Et là, pour le BN, ce qui était extrêmement surprenant au moment où on a fait les expériences, c'est que les charges de surface étaient absolument gigantesques. Les charges de surface étaient de l'ordre de 0,1 à 1 coulomb par mètre carré. Et 1 coulomb par mètre carré, c'est gigantesque. Du verre qui est supposé être très chargé, c'est quelques dizaines de millicoulombs. Donc ça, c'était une première surprise, et je vais revenir dans un instant sur l'explication de ça. Donc, sur le BN, grosse charge de surface. Sur le carbone, un comportement un peu bizarre dans la loi d'échelle. Et l'hypothèse qu'on avait faite à l'époque, c'était de dire, on savait que cette charge était négative, et ça on le savait parce que on avait fait des mesures électrocinétiques de potentiels états, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais on savait que la charge était négative, et ce qui nous paraissait le plus crédible, c'est que la charge, en fait, c'est ce BN ou ce carbone absorbait d'une façon ou d'une autre des OH- à la surface. Et donc la question, c'est est-ce que le nombre d'OH-, si on part de cette idée-là, c'est-à-dire que la charge de surface, c'est le nombre d'OH- de surface, pourquoi il serait en concentration en sel puissance 1 tiers ? Donc ça, c'était. Alors là, l'argument, en fait, il est assez simple pour justifier ça. C'est de dire que finalement, normalement, si on fait un modèle simple de type Poisson-Boltzmann, on dit que ça, c'est la concentration bulk fois l'exponentiel du potentiel électrostatique. Donc le potentiel électrostatique, ici j'ai une charge moins, donc ça fait plus le potentiel de surface sur KT, et éventuellement un potentiel d'adsorption sur KT qui dit que j'ai un puits d'adsorption à la surface. Mais maintenant, donc ça relie la charge au potentiel, c'est assez simple. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est comment on relie ça à ce qui se passe. C'est quoi il faut une deuxième équation, et cette deuxième équation, on peut l'obtenir par un bilan de force. Voilà, un bilan de force, en fait, on peut dire que le champ de surface électrique, donc ça, c'est typiquement, c'est le champ électrostrictif, hein, ou en tout cas, c'est la contrainte locale de Maxwell. Ça, en gros, elle va compenser la concentration en sel fois KT, typiquement. En fait, si on fait ça proprement, c'est ce qui s'appelle l'équation de Graham. Mais en gros, cette équation de Graham, elle dit ça. Sauf que la concentration en sel, en fait, elle a deux composantes. On a les OH-, mais après, il y a les ions, les contre-ions de l'autre côté. Donc ça, et si la surface est chargée négativement, c'est plutôt les contre-ions qui vont plutôt jouer. Donc ça, c'est la concentration en sel bulk fois l'exponentielle de moins EVS sur KT. Et donc, vous voyez que sigma est en EVS sur KT, et E carré étant ça, donc ça c'est en C bulk sur sigma, et la charge de surface par la loi de Gauss, elle est proportionnelle à sigma au carré. Donc à la fin on a sigma carré qui est en concentration en sel sur sigma, et donc on en déduit que effectivement sigma c'est en concentration en sel puissance 1 tiers. Et donc ça permet de un argument très simple de retrouver ce scaling qu'on avait observé expérimentalement et qui marche très bien. La question ensuite, c'est pourquoi l'OH- vient s'absorber sur les surfaces de graphite et différemment sur les surfaces de BN. Donc ça, voilà, ça c'était la prédiction. Ça marche très bien par rapport, en fait, ce que je n'ai pas montré, mais toutes ces courbes-là, là, en pointillé, c'est les courbes issues de la prédiction complète de si je mets les chiffres vraiment, ça donne ces prédictions-là, donc ça marche très très bien avec les expériences. Donc, la question c'est, pourquoi il y avait une absorption sur les surfaces? Et donc là, je me suis tourné vers Marie-Laure, qui a fait des simulations ab initio, avec différents degrés de détails. Mais les simulations qui ont ab initio, ça veut dire qu'on prend en compte le caractère quantique, en fait, on prend en compte les électrons. Et ce qu'ont montré ces simulations, et c'était ça qui était vraiment extrêmement intéressant, c'est que si vous prenez un OH- sur une surface de BN, en fait, donc ça, ce que je montre ici, c'est le profil d'énergie libre perpendiculaire à la surface pour un OH- qui vient près de la surface. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un premier minimum à une distance assez grande, puis après un deuxième minimum c'est pour le BN. Par contre, sur le graphène, ici, en fait, il y a juste un minimum et après un maximum. Donc ça veut dire que sur le BN, il y a vraiment ce minimum-là, c'est la chémisorption, c'est vraiment une liaison covalente qui est créée, tandis que sur le graphène, on n'a que la physisorption, puisque le ion reste à une certaine distance. Et ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, c'est que cet ion est absorbé, et il reste là si vous le laissez, mais il est extrêmement mobile. Donc ça donne une image de charge assez compliquée, assez subtile, pour les OH- sur le carbone. Mais en tout cas, de ces expériences, de ces simulations-là, on peut retrouver en gros les valeurs expérimentales que je vous ai montrées. Donc voilà, donc ça c'était un exemple de type d'expérience qu'on mène au labo, et qu'est-ce qu'on peut en tirer, et quels enseignements on peut en tirer. On peut faire ça sur tous les systèmes que vous voulez. On a refait ça récemment sur les systèmes bidimensionnels. Donc système bidimensionnel, une nouvelle fois, c'est ces canaux, donc soit des canaux où on crée des canaux ici entre deux surfaces, et là ce que je vous montre comme canal, c'est des canaux entre deux surfaces de graphite, et il y a donc ça c'est ce que j'appelle le pristine, et il y a un autre type de surface où en fait on vient graver l'une des surfaces de graphite activée, ce qu'on appelle activée, c'est qu'on vient le graver avec la microscopie électronique pour préparer le canal. Et donc à ce moment-là, on a des systèmes graphite activé. Donc là, forcément, c'est peu rugueux, mais il y a beaucoup de liaisons pendantes, donc c'est plutôt très chargé quand on le met dans l'eau, alors que là, c'est plutôt pristine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut, c'est tout lisse, tout plat, etc. Ce qui est intéressant, donc là, on peut faire énormément d'expériences avec ça. On s'est amusé notamment à faire des expériences donc, de conductance. Donc ça, c'est les premières expériences. Là, par exemple, c'est la conductance fonction de la concentration sur le système pristine, c'est-à-dire celui-là, et sur le système activé. ce qu'on voit tout de suite, c'est que la conductance sur le système activé est infiniment plus grosse, enfin infiniment, elle est quelques ordres de grandeur plus grande que sur le système non activé. Et ça, c'est parce que on a une charge de surface ici qui est beaucoup, beaucoup plus grande sur le système activé. Pas une énorme surprise. Ce qui est les vraies surprises, c'est que d'une part, ici, donc là, on s'attend plutôt à des OH- qui viennent s'absorber ici, c'est qu'on a ce qu'on appelle un potentiel zeta. Ces potentiels zeta, c'est le potentiel entre guillemets de surface et qui est caractérisé usuellement. On a un potentiel zeta sur le graphite, ici, qui n'est pas du tout négligeable, qui fait quelques dizaines de millivolts, jusqu'à 80 millivolts. Donc c'est assez gros, en fait. C'est-à-dire que le graphite, même s'il est pristine, ici, on n'a rien mis dessus, il reste très chargé. Et ce qui est encore beaucoup, beaucoup plus surprenant, c'est que sur ce système activé, le potentiel zeta atteignait 1 à 2 volts. Et ça, c'est un peu le record du monde du potentiel zeta, ici. Donc là, ici, c'est 60-80 millivolts, ça dépend de la concentration. Ici, ça allait jusqu'à 1 à 2 volts. Et la raison pour ça, donc, l'avantage du système extrêmement contrôlé, c'est qu'on peut tourner les boutons. En fait. Après, on peut analyser ça en mettant des modèles dessus. Et en fait, je ne vais pas du tout détailler ces modèles ici, je vais parler d'autres choses après. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces modèles montrent que si on ne prend pas en compte du glissement hydrodynamique, donc ce que j'ai décrit il y a deux cours, on n'arrive pas à décrire les résultats expérimentaux. Donc en fait, et par contre, si on prend en compte le fait qu'on a des charges de surface plus du frottement faible, ce qui est un petit peu paradoxal, en fait, on arrive à reproduire quasiment quantitativement, alors avec très peu de paramètres, mais évidemment, c'est des descriptions, on fait ce qu'on peut. Ça nous permet de décrire l'ensemble des réponses de plein de systèmes différents, de tailles différentes. C'est juste pour vous montrer une nouvelle fois que ça donne une mine d'informations et qu'on commence vraiment à une mine d'informations notamment sur la physico-chimie dans ces interfaces, dans ces systèmes ultra confinés. Et donc finalement, je disais pour commencer, c'est que ces questions finalement elles sont assez similaires aux questions du stockage sur j'y reviendrai peut-être après. Alors, donc là, je vais revenir. Je vais parler du tamisage, c'est-à-dire que là, je vous ai montré les types d'expériences qu'on peut faire, par exemple mesurer des mobilités ultra confinées, les charges de surface. Qu'est-ce que je peux en tirer ? Donc, retour aux fondamentaux, c'est comme au rugby, des fois il faut revenir aux fondamentaux pour avancer. Et la question c'est, comme je vous disais, c'est finalement combien d'ions j'ai à l'intérieur ici, sachant que bon, j'ai un réservoir d'ions à l'extérieur. Et quand on regarde cette littérature, et là finalement je vais essayer de faire écho un peu à toute la littérature des membranes, c'est-à-dire tout le... Alors, c'est une littérature qui est maintenant quasiment industrielle, mais typiquement les notions que je vais introduire là, c'est un peu les notions qui sont sous-jacentes, et là je les ramène plutôt dans le côté fondamental. Les choses assez basiques, c'est ces coefficients de partition, combien on a d'ions à l'intérieur versus l'extérieur, le coefficient de réjection. Ça, c'est l'opposé, d'une certaine façon. C'est 1 moins R, 1 moins K. C'est se dire, s'il n'y en a pas à l'intérieur, le coefficient de réjection est 1. Donc, ça veut dire ma membrane, elle est super pour rejeter les espèces que je considère. Et ce qui va arriver très, très vite, c'est le transport. Parce que s'il y en a un petit peu qui traverse, le coefficient de diffusion effectif qui passe à l'intérieur, c'est D0 fois, par exemple, si j'ai une certaine barrière d'énergie, c'est delta F sur KT. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le coefficient de partition ici, c'est ni plus ni moins que la même chose, la barrière d'énergie, et ici, c'est 1 moins cette barrière d'énergie. Donc, et ça, vous voyez que, naturellement, c'est le coefficient de diffusion nu fois le coefficient de partition. Et donc, en gros, c'est ces quantités-là qu'il faut décrire. OK, donc il faut en déduire la barrière d'énergie. En fait, la barrière d'énergie, si vous regardez la littérature, notamment dans les systèmes biologiques, les canaux biologiques, c'est ce qui a intéressé les gens pendant des années et des années. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple ici, parmi beaucoup d'autres, un canal de gramicidine. Et donc, dans ce canal, typiquement, on prend un ion, on le fait traverser doucement, et on mesure le paysage d'énergie libre qui est lorsque l'ion traverse. Donc, j'ai un delta F sur KT en fonction de X. Donc ça, c'est le X, c'est le long du canal. Et ce truc-là a des fluctuations, mais typiquement, on a une barrière maximale, ce que précédemment, je notais delta F croix, mais aussi un paysage comme ça. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai démontré rapidement la formule de Lifson-Jackson. Si on connaît le paysage de barrière, soit on dit grossièrement le transport, c'est la barrière max. Si on veut des infos un peu plus précises, ben voilà, on peut utiliser cette expression pour avoir en fonction de tous les détails. Le point qui est quand même intéressant dans tout ça, donc, c'est que en fait, ce paysage, il n'est pas forcément évident. En fait, parce que si, là, par exemple, je vous montre en haut, là-haut, le paysage pour la traversée d'un ion K+, sur cette gramicidine. Et en fait, bon, ce paysage, grossièrement, c'est une barrière de quelques kilomoles par... quelques kilocalories par mol, c'est-à-dire quelques KT, on va dire, et bon, rien d'extraordinaire. Mais en fait, cette barrière, elle résulte d'une compensation gigantesque de plein de contributions, et notamment des contributions, le fait que la membrane, elle a une constante diélectrique inférieure, ça je vais y venir tout de suite, le fait que parfois, donc c'est pas le cas ici, mais il peut y avoir des charges de surface, en fait, il y a plein d'autres contributions, et c'est là où c'est extrêmement délicat en fait, d'estimer à la main ces barrières d'énergie, c'est que souvent il y a des compensations gigantesques, parce que vous voyez, c'est des compensations de 60 kcal mol pour arriver à une barrière qui est de l'ordre de 2. Donc c'est-à-dire qu'on a un gros terme qui est supprimé par un deuxième gros terme négatif. Donc ça reste assez délicat de faire des prédictions. Mais ça, c'est vraiment la vision qui est assez classique finalement dans toute cette littérature de membrane ou même littérature biologique, par exemple ici. Je discute ce qui se passe pour les aquaporines, dont j'ai discuté pas mal de fois. La vision usuelle des aquaporines, donc c'est vraiment des molécules d'eau qui traversent un tube avec un paysage d'énergie libre. Et si vous connaissez la perméabilité, ce que vous pouvez mesurer, j'avais dit c'est de l'ordre de 10 puissance 13 centimètres par... alors après, je ne sais plus dans quelles unités, j'ai oublié. Mais typiquement, ça vous permet d'extraire une barrière d'énergie. La barrière d'énergie, et comme ce qui est écrit par exemple dans un des papiers là, de Paul et Horner, c'est typiquement 5 kcal par mol, la barrière typique pour le passage d'une molécule d'eau à travers un canal. Donc là, c'est pas des ions, c'est des molécules d'eau, mais le principe est le même. Et d'ailleurs, si vous dites, vous prenez des canaux un peu plus sophistiqués, finalement, le coefficient de diffusion, il est linéaire en une barrière d'énergie qui est de l'ordre de ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est, en gros, ce qui était monté dans cet article, hein, qui date de 2015, donc c'est un article expérimental, hein, c'est que sur plein de canaux différents, et dont les nanotubes et tout le reste, c'est des canaux biologiques, en fait, le coefficient de diffusion de l'eau à travers, qui est lié à la perméabilité, est directement lié au nombre de liaisons hydrogène que peut faire la molécule d'eau au passage. Donc ça donne une vision à la fois assez simple, puisque c'est une barrière d'énergie, et à la fois qui cache beaucoup de choses, parce que comme je vous le montrais avant, ce paysage est quand même assez complexe. Alors, si maintenant, pour revenir à ma question initiale, je vous disais, ouais, la barrière d'énergie c'est important, essayons de la calculer. Donc c'est ça que je vais faire là dans le quart d'heure qui vient. C'est dire, quand on a un passage d'un ion dans un canal, c'est quoi la barrière à l'entrée? Et là, c'est une question à la fois académique, mais qui finalement conduit à énormément de questions associées. Donc, l'effet le plus basique qu'on puisse considérer, c'est les effets de Donnan. Les effets de Donnan, c'est vraiment la question où on dit, par exemple, ma membrane a une charge de surface. Et donc, quand mes ions vont venir à l'intérieur, si par exemple la charge de surface est négative, Donc, ce que je noterais sigma, c'est plutôt la valeur absolue. Et donc, si la charge est négative, les plus auront tendance à rentrer, alors que les moins ont tendance à être repoussés. Et ça, le potentiel de Donald, on l'a déjà discuté. La façon la plus simple de le faire, c'est de dire, pour savoir un petit peu quelles sont les populations des ions plus et des ions moins à l'intérieur, bon, il faut écrire à ce moment-là l'égalité des potentiels chimiques. C'est-à-dire ρ plus moins, c'est une contribution de gaz parfait, et dire que bah, comme on a une charge sur la surface, on a forcément un potentiel de Donnan, un potentiel moyen, et ça, c'est le potentiel chimique dans le réservoir. Donc ça, c'est la concentration en sel dans le réservoir. Et donc ça, si vous ajoutez, donc j'ai une relation pour ρ+, une relation pour ρ-, si vous ajoutez ces deux relations, le potentiel de Donnan disparaît, et d'où la relation ρ+, ρ-, c'est la densité du sel dans le réservoir au carré. Donc c'est la loi d'action de masse. Et la deuxième relation, c'est qu'on doit avoir électroneutralité, en tout cas c'est ce qu'on suppose, électroneutralité dans le pore. Donc on a forcément que ρ+, moins ρ-, c'est, là, je vais supposer que j'ai un canal sous forme d'un slit, donc un canal de taille H. Et donc, la différence de concentration entre le plus et le moins, bah, c'est ce qu'il y a sur les surfaces. Donc, c'est l'électroneutralité. Donc, si vous résolvez ça, c'est l'équation du second degré, hein, donc rien d'extraordinaire. Et deux équations, deux inconnues, ça se résout bien. Je vais réintroduire le nombre de Dukin qui est sigma sur rho s h, et on trouve facilement que ça, c'est rho s 1 plus Dukin au carré, plus ou moins Dukin. C'est juste la résolution de l'équation du second degré qui donne ça. Et ça, c'est rho s exponentielle plus ou moins la barrière d'énergie. Donc la barrière d'énergie ici, c'est ni plus ni moins que EVD sur KT, mais ça dépend si on est plus ou si on est moins. D'ailleurs, pour les ions plus, c'est plutôt une attraction, pour les ions moins, une répulsion. Et donc, avec ça, finalement, c'est assez simple. On peut en déduire la concentration de sel à l'intérieur, c'est ρ plus plus ρ moins. Par rapport à la concentration à l'extérieur, c'est 2 ρ s. Ben ça va donner racine de 1 plus Dukin au carré. Et donc, le coefficient de réjection des deux ions, ça sera 1. Donc ça c'est K total. Et le K plus, c'est l'un des deux. Et le K moins, l'autre. On a 1 moins... je peux le noter de plein de façons différentes, mais moins plus EVD sur KT. Et donc l'EVD dépend, je devrais le noter ici, VD, c'est KT sur E, log de ρ moins sur ρ plus. Donc on a un coefficient de réjection. Alors ça dit une première chose assez simple, c'est que les membranes chargées, c'est super pour repousser les ions opposés, mais c'est pas très super pour repousser l'autre ion, donc en fait, parce que évidemment elles sont attirées. Mais ces modèles de Donnan, c'est un petit peu la base. Et par exemple, là je vous montre des expériences qui ont été faites il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, où sur le taux de réjection à travers des membranes de nanotubes à l'époque, et différents ions, donc KCl, CaCl2, etc. Et en fait, si vous voyez sur ce graphe, il y a les taux de réjection de chacun des ions et la prédiction associée à un modèle de type Donnan comme ça. Honnêtement, je ne suis pas sûr de comprendre complètement comment ils ont obtenu cet accord, parce que normalement, il devrait y avoir une séparation entre les plus et les moins. Bon. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'écrivent dans l'article. Dans ce cas-là, le potentiel de Donnan semble fonctionner à peu près bien, mais je soupçonne un peu une entourloupe là-dessous. En fait, donc ça, c'est le tamisage par Donnan. Ce qui est infiniment plus efficace et plus important, c'est les contrastes diélectriques. Donc le... En fait, qui est le contraste diélectrique, c'est simplement le fait que si j'oublie par exemple la structure en pore, une membrane biologique ou une membrane de polymère, a une constante diélectrique qui est souvent assez faible. C'est 2, 3, enfin, ça dépend de. Et sauf que l'eau à l'extérieur, elle a une constante diélectrique de l'ordre de 80. Et donc, quand un ion va rentrer dans une membrane, il va passer grosso modo d'un système où il y a un écrantage diélectrique très fort à un système où il y a très peu d'écrantage. Et donc ça, c'est très connu. La base, c'est l'énergie de solvatation de Born, qui dit que l'énergie correspondante... Pour un ion, c'est ni plus ni moins que son énergie électrostatique et on passe d'un... Si on dit qu'un ion a une certaine constante diélectrique à l'intérieur, dans un milieu extérieur, par exemple ça c'est l'énergie de solvatation d'un ion qui arrive du vide vers un système, on a un contraste diélectrique. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. Bon, je vais plutôt le noter différemment, parce que là, je vais me tromper dans mes notations. Je vais plutôt le noter comme ça. Alors, et là, ça devrait être 4 pi, mais c'est 1,5, parce que c'est une énergie libre, c'est un peu comme un condensateur, en fait, quelque part. Ça a été... Là, je mentionne un article de Parsedjian, qui est un article assez ancien, hein, c'est dans les années 60, 70, qui a mis, en fait, c'est une sorte d'article pionnier, entre guillemets, sur ces domaines-là, qui dit, attention, il faut faire attention à ces énergies diélectriques, notamment quand les ions traversent les membranes biologiques. Et donc ça, c'était l'énergie de solvatation, et donc... On peut généraliser ça au cas où on passe justement maintenant vers une membrane. Et donc quand on passe vers une membrane, en fait on va avoir typiquement la constante diélectrique, elle est beaucoup beaucoup plus grande dans l'eau que dans la membrane. Donc on peut faire ça proprement, mais là grossièrement ce que ça va donner, c'est que la barrière d'énergie dans ce cas-là, c'est 1,5 de la constante diélectrique, je vais mettre epsilon 0, epsilon water, et R, ici, c'est la taille de l'ion, par exemple. Donc ça, si on met les chiffres, ben, en fait, tout de suite, c'est des chiffres assez considérables, parce que je vais introduire la longueur moléculaire, là, 4 pi epsilon 0 epsilon water kT. Donc ça, c'est la longueur de Birum. Et parce que ça, c'est une référence pour moi, parce que ça, c'est 0,7 nanomètres dans l'eau. Et donc, la barrière d'énergie ici, c'est typiquement, donc delta F sur kT, on voit que c'est... alors, excusez-moi, je me suis trompé. Ici, c'est on met ça dans la membrane, donc ça, c'est le epsilon de la membrane. Mais... Ici, en introduisant le epsilon water, c'est epsilon water sur epsilon m, comme ça, fois Lb sur R. Si j'ai un ion de l'ordre de quelques angstroms, ça c'est d'ordre 1, mais ça veut dire que ça c'est de l'ordre de 40, typiquement. Si ça c'est 80, ça 2, ça fait une barrière d'énergie qui est de l'ordre de 40 kT. Donc, 40 kT, c'est absolument gigantesque. Il n'y a aucune chance qu'un ion rentre dans un système où une barrière d'énergie est aussi grande. Mais ce qui est intéressant, c'est que la géométrie commence à jouer énormément. Et finalement, de mon point de vue, c'était un peu le point central de cet article de Parsedjian. c'est se dire que, grosso modo, le système ne rentre pas dans une membrane avec une constante électrique complète, mais on peut imaginer que il y a une membrane avec un port qui traverse ici. Et alors, je vais faire l'hypothèse simplificatrice que la constante électrique à l'intérieur de l'eau à l'intérieur du port reste à celle du bulk. On peut supprimer cette hypothèse, mais ça rend juste plus compliqué les estimations. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a un contraste diélectrique comme ça, si on met une charge au centre, normalement, le potentiel dans le volume, ça crée un champ électrique, enfin, pardon, une charge dans le volume, ça crée un champ électrique isotrope, comme ça. Ici, dans un canal où la constante diélectrique a un contraste gigantesque, les lignes de champ vont être confinées dans le canal. Ça veut dire que les lignes de champ, au lieu de partir de façon isotrope, vont rester confinées à cause du contraste diélectrique. Donc ça, c'est 3D, et ça, c'est 1D. Donc, si les lignes de champ sont confinées, par exemple, ça va changer énormément de choses. Alors, et donc c'est ça que je voudrais essayer d'estimer un petit peu plus. Et alors, on peut faire une hypothèse très simple, puis après je reviendrai dessus. L'hypothèse très simple, c'est de dire que finalement, si on a un contraste diélectrique, c'est un petit peu comme si la particule interagissait avec sa charge image. Et la charge image, typiquement, elle a pour charge epsilon water moins epsilon m sur epsilon water plus epsilon m fois la charge initiale. Et ça, c'est de l'ordre de Q. Sauf que ici, l'énergie typiquement d'interaction, ça serait de l'ordre, à ce moment-là, de la charge avec sa charge image. Et donc à ce moment-là, ça sera E au carré sur, bon, je vais laisser tous les préfacteurs, fois ici la taille, ici R, ici c'est la taille du port. Et là, ce qui change énormément, vous voyez, c'est qu'on a remplacé la membrane par l'interaction de l'eau. Donc ça, c'est KT, typiquement, par LB sur R. Ça veut dire qu'on est, à cause de ce confinement des lignes de champ, on passe d'une barrière qui est de l'ordre de 40 KT à une barrière qui est ici de l'ordre de quelques KT. Alors, ça, on peut le faire... Je vais creuser un petit peu parce que c'est un sujet qui est extrêmement riche. Donc, ça c'est un graphe qui était dans le papier de Parsedjian qui montre justement qu'à cause de ces effets-là, on a une barrière d'énergie qui est infiniment plus faible que celle estimée naïvement. Alors, justement, comment, si je devais décrire ces choses-là, comment je ferais ? Alors, donc ça, c'est ce que j'appelle les fuites diélectriques. En fait, si on regarde vraiment... Là, tout à l'heure, je vous ai dit que les lignes de champ étaient complètement confinées à travers. En pratique, le rapport, le epsilon water n'est pas infini. Donc en pratique, les lignes de champ sont confinées jusqu'au moment où elles sortent. Et elles vont sortir au bout d'une certaine longueur, que je note xi. Et... pour estimer ce xi, alors c'est là où il faut faire des... Ben, il faut prendre son courage à deux mains et résoudre le problème électrostatique correspondant. Donc ça veut dire, le problème électrostatique, c'est que vous avez un potentiel électrostatique à l'intérieur qui vérifie Laplacien de V égale à 0 et les conditions limites sur la paroi liées au contraste diélectrique. Donc c'est pas un problème très drôle, c'est très 19e siècle, comme dit Jean-François Joigny. Ça se fait, alors là j'ai mis juste une copie d'écran pour vous montrer, voilà, c'est un calcul très classe préparatoire. Et on peut en déduire de ça en fait le potentiel dans ce système-là. Et pour faire une longue histoire courte, à la fin des fins, ce qu'on va arriver, c'est justement ces structures-là, c'est-à-dire un confinement des lignes de champ sur une certaine distance, puis après, les lignes de champ partent à l'infini. Et cette longueur xi, en fait, elle est directement proportionnelle au rayon et a une fonction assez compliquée. Et justement, si dans une limite assez simple, on peut arriver à une équation autocohérente sur ce xi, qui est cette équation-là que j'ai écrite là, ici, comme ça. Bon, pour de l'eau et une membrane de l'ordre de 2, xi, c'est de l'ordre de 6 fois r. Mais en fait, ça sera un préfacteur qui dépend des constantes diélectriques fois r. Si vous mettez des choses plus compliquées, un tenseur diélectrique qui est anisotrope, c'est facile à le prendre en compte ici dans la constante diélectrique là. Donc, pas des choses extrêmement intéressantes, mais à la fin des fins, vous avez le résultat qui vous intéresse, c'est que ici, le potentiel à l'intérieur, en fait, c'est celui correspondant à un champ électrique constant, puis après, un champ qui part à l'infini à 3D, donc en gros, s'annule. Donc, une façon très simple de le décrire, c'est de dire que on a un potentiel qui décroît exponentiellement sur cette longueur diélectrique, ici. Et, en fait, vous devez vous ramener au fait que le champ électrique, quand x tend vers 0, c'est celui qu'on avait, c'est celui qu'on a dans cette situation-là. Alors, dans cette situation-là, c'est assez simple, tout près. Donc, pour x tend vers 0, en fait, on voit, si on a un champ qui est unidirectionnel, on va faire un théorème de Gauss. Et le théorème de Gauss va nous dire que 2 fois le champ électrique fois pi r carré, c'est la charge à l'intérieur sur epsilon 0, epsilon water. Donc ça veut dire bien que le champ électrique est constant, Q sur 2, epsilon 0, epsilon, multiplié par 1 sur pi r carré. Et donc ça, c'est ce qui se passe quand x tend vers 0, quand je suis en dessous de cette longueur-là. Et donc ça me fixe le préfacteur, et donc ce xt. Et donc ce xt, c'est comme ça que j'arrive au fait que xt, c'est r carré fois 2 pi epsilon 0 epsilon water kt sur E2. Bon. Pourquoi ? Oui. Alors, pardon, gamma, c'est la constante de l'air, c'est 0,5. Bon, évidemment, pourquoi je vous ai fait ça ? C'est aussi pour montrer que, dès qu'on met une charge et un peu d'électrostatique, tout de suite, ça devient, on s'arrache les cheveux. Et ça, les problèmes diélectriques, c'est un des problèmes sur lesquels on s'arrache les cheveux. Ça devient tout de suite horriblement compliqué techniquement. Il faut faire très attention à la thermodynamique, etc. Mais là, je l'ai fait assez rapidement, mais ça montre un petit peu la difficulté en fait, qui est sous-jacente à ces systèmes-là. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est quelle est l'énergie associée. La barrière d'énergie, c'est 1/2 de la charge fois le potentiel électrostatique en zéro. C'est l'équivalent d'un condensateur. Et ça, maintenant, on a le potentiel en zéro, on connaît le xt, on connaît le xi. Ça va donner donc kbt xi sur 2xt. Et si vous mettez, ce que j'ai décrit tout à l'heure, en gros, là, vous allez avoir, le xt étant linéaire en r, vous allez avoir un système qui va être en kt xi sur r fois 1 sur r. Et ça, c'est de l'ordre de 6, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, il y aura un lb typiquement. Et on retrouve en fait l'ordre de grandeur que j'ai donné rapidement tout à l'heure avec la charge image. Et ça, ce serait la méthode un peu pédestre. Donc la leçon à retenir de ça, c'est OK, quand on rentre dans une membrane, en fait, si on veut faire du tamisage, il faut, faut jouer sur les constantes diélectriques de sorte que on ait ces contrastes-là, parce que ces barrières d'énergie sont quand même assez grandes. Et ça va dépendre aussi beaucoup de la géométrie en fait, de la membrane, si vous voulez faire l'exclusion. Alors, mais là, je voudrais aller un tout petit peu plus loin sur les effets que j'appellerais collectifs. Les effets collectifs, c'est dire que ben, là, j'ai pris un ion qui se baladait dans un port. En pratique, c'est plutôt un réservoir que je mets. Donc, il y a pas mal d'ions qui vont vouloir rentrer. Donc, si j'ai mon réservoir ici, en fait, je vais avoir une collection d'ions plus moins à l'intérieur. C'est comme ça. Alors, comment décrire ça? Donc là, je vais faire ça... pareil, je vous montre juste la façon dont on veut le faire si on était rigoureux complètement. Et la thermodynamique, elle est quand même importante dans ces systèmes-là. Pour ça, en fait, il faut se demander, si j'injecte un ion, quelle est l'énergie correspondante? Or, si j'injecte un ion, donc si j'injecte une certaine charge ici, forcément, je vais avoir un nuage d'écrantage. C'est-à-dire, par exemple, si le Q est positif, je vais avoir des ions moins qui vont venir se coller, puis des ions plus, donc un nuage de charge. Donc la densité de charge dans le système, ça sera quelque chose comme ça. Donc il faut que j'estime l'énergie de cette densité de charge. Donc si je dois faire ça, bah, déjà il faut que j'estime le potentiel électrostatique, donc ce que j'ai noté phi, là, comme ça. Et ce potentiel électrostatique, bah, il va vérifier l'équation de Poisson. Donc là je suppose que c'est à une dimension, d2φ sur dx2, et là je mets la densité de charge, donc moins rho plus, moins rho moins sur epsilon 0, epsilon water, avec la charge E, et ça c'est E rho s fois exponentielle alors je l'ai mis phi, pardon, c'est sans dimension, donc phi c'est EV sur KT. Donc ça, je mets E2 sur KT. Et là, je vais avoir exponentielle plus phi moins exponentielle moins phi. Et je vais donc avoir ici quelque chose qui est rho s sinus hyperbolique du potentiel. Ça c'est si je n'ai pas d'effet diélectrique comme j'ai décrit tout à l'heure. Et donc, pour ajouter les effets diélectriques, je dis, ben, comme mon potentiel... Je dis qu'il est écranté sur une certaine distance, il suffit que j'ajoute à la main un écrantage. Alors ça ne se résout pas analytiquement, mais si on suppose que le potentiel est assez faible, on va ramener à quelque chose qui est rho s fois phi, avec un préfacteur qui ne m'intéresse pas trop ici, comme ça. Donc ça me donne un potentiel qui maintenant, à cause des effets dus aux autres ions, décroît en x sur une longueur xif, et cette longueur xif, eh ben, est telle que on a cette contribution-là et cette contribution de la densité de sel. Et donc le xif. Est telle qu'on a 1 sur le xif au carré, c'est 1 sur xi au carré, plus une certaine constante fois la concentration du sel à l'intérieur. Et pour montrer comment on doit faire la thermodynamique dans ce cas-là, c'est de dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le potentiel chimique du sel à l'intérieur. Et ce potentiel chimique du sel à l'intérieur, ça va être forcément une contribution entropique plus une contribution liée aux charges. Et cette contribution liée aux charges, ici, eh ben on l'obtient typiquement, et donc ça c'est le point classique de toutes les approches avec les systèmes coulombiens d'interaction. Tout à l'heure je vous écrivais que ça c'était 1/2 du potentiel électrostatique au centre. Ici en fait on fait une intégration thermodynamique d'un potentiel au centre, mais on suppose que la charge, cette intégration thermodynamique, on suppose que la charge ici au centre c'est lambda fois un certain Q0, c'est-à-dire que tout doucement, on augmente la charge et on calcule le coût thermodynamique de ça. Donc, je ne vais pas, donner tous les calculs, ça donne des choses qui ne sont pas... C'est à la fois pas très compliqué et à la fois... voilà, il faut le faire proprement. Alors, pourquoi ça c'est intéressant? C'est parce que... La fin des fins, vous arrivez à des diagrammes de ce type-là. C'est-à-dire que vous arrivez à une équation autocohérente sur la concentration en sel à l'intérieur. C'est la concentration en sel à l'intérieur fixée par le potentiel chimique à l'extérieur, donc le C-out. Et j'ai calculé précédemment le potentiel chimique d'excès. Et donc j'ai cette relation implicite à calculer pour le C-in en fonction du C-out. Et donc ça me donne par exemple que la concentration... Donc, ce que j'appelais le kappa, grand K tout à l'heure, en fonction de la concentration dans le réservoir. Si j'ai une concentration faible dans le réservoir, ben finalement, C in sur C out, c'est simplement ce que j'ai calculé tout à l'heure. Et là, ce que j'ai calculé tout à l'heure, c'est la barrière d'énergie ES. Cette barrière d'énergie, c'est le KTXI sur ce coefficient XT. Et puis après, si je suis, je mets plein de sel, je vais écranter toutes les interactions, et à ce moment-là, ça doit tendre vers 1. Et à la fin, j'ai une interpolation entre les deux. Voilà. Alors, cette interpolation entre les deux, donc là, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle, j'ai fait une linéarisation de l'équation ici, ce qu'on appelle une approximation de Debye-Uckel. Ça marche bien lorsque la barrière d'énergie à l'entrée, et ce que je note ici, une interaction faible, est faible. Mais dès que les ions interagissent fortement, cette hypothèse de Debye-Uckel se casse la figure, et notamment elle se casse la figure parce qu'elle prédit que le coefficient de partition en fonction de la concentration extérieure augmente à une discontinuité. Et en fait, cette discontinuité n'est pas physique, elle est liée simplement aux approximations. Et si, c'est de l'approximation notamment de linéarisation ici, si vous ne mettez pas la linéarisation, vous avez cette courbe rouge ici. Donc, c'est-à-dire, on perd la transition de phase. C'est un autre exemple typique des difficultés, c'est-à-dire qu'on a vite fait de prédire des transitions de phase assez bizarres qui pourraient être extrêmement intéressantes, par exemple, pour condenser beaucoup d'ions à l'intérieur, avoir une transition de phase, c'est l'idéal. C'est-à-dire que tous les ions veulent se condenser à l'intérieur. Mais cette transition-là, elle est non physique, c'est un artefact. Alors, donc ça, c'est le rouge, là, c'est la prédiction de des calculs que j'ai esquissés ici. Dire comment on les a obtenus. Ensuite, il y a ces points-là. Et ça, je vous ai dit, c'est une solution. J'ai pas dit pour l'instant, pardon, mais ça, ces points-là... Il se trouve que dans ces systèmes-là, et c'est le côté extrêmement intéressant, on peut tout calculer exactement. C'est-à-dire calculer la fonction de partition du système. Alors, je ne vais pas le faire, je vais juste montrer grossièrement, mais en gros, je vais citer la littérature correspondante. Et en gros, l'idée, c'est que là, on a un Hamiltonien avec des ions... Ici, en interaction, des plus, des moins ou rien. Donc, on fait un système où on met des cases et on met un plus, un moins. Donc, ça serait 1, ça serait moins 1, 0. Et on sait qu'on a une interaction qui est exponentielle en la distance. Donc, c'est xij sur xi. Et si j'ai deux charges positives, eh ben, j'ai une interaction... plus 1, plus 1, charge négative c'est plus 1, moins 1, et 0. Donc c'est une sorte de modèle d'Ising, mais avec un noyau, donc là c'est avec un noyau non local. Alors il se trouve que, donc ça c'est tout le travail de Nikita Kavokin, mais sur la base de, il se trouve que ces modèles-là ont été résolus dans les années 70, et il y a eu beaucoup de travaux, notamment par David Dean et Vincent Demery dans les années 90-2000. Et en fait, on peut calculer la fonction de partition de ça. C'est-à-dire, on peut calculer exactement l'hamiltonien ici. Et alors c'est, je ne vais surtout pas le décrire, mais ce qui est surtout intéressant, c'est deux choses. C'est qu'on a une prédiction exacte contre laquelle on peut aller tester les différents modèles, les différentes hypothèses. Et un point qui est intéressant et que j'ai pas discuté ici, c'est que dans une certaine gamme de concentration, en fait, le système, au lieu que les ions, soient séparés les uns des autres, ce qu'on voit apparaître dans ce modèle exact, c'est que le système fait explicitement des paires d'ions. Ça, c'est ce qu'on appelle des paires de Birum. Et ça, c'est caché, en fait, dans la résolution exacte, et on ne le voit pas ici, mais ça, on en discutera explicitement la semaine prochaine. Et où est-ce que ces paires, on le voit les mieux, en fait, c'est lorsque vous commencez à faire du gating. C'est-à-dire, vous avez votre port, mettons que vous avez plein de ports dans une membrane, et vous mettez un certain potentiel. Donc là, ici, j'ai un système à une dimension, maintenant, vous mettez un potentiel. Et donc, là, c'est vraiment une situation où on a un potentiostat extérieur, comme on essaye de faire avec Patrice en ce moment, et on charge la membrane. Et donc, c'est-à-dire ici, j'ai mon port avec une charge de surface. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce cas-là, dans la résolution exacte, on voit que ce qui apparaît, c'est pas que on remplit gentiment le port avec un nombre de charges. Ça, c'est par exemple si je dis la charge de surface qui est liée au gating extérieur, je la fais varier continuement, et là, j'ai le nombre de charges à l'intérieur. Une solution type champ moyen, ça dirait, j'ai une droite. C'est le nombre de charges à l'intérieur, c'est la charge du sol. Ce qu'on voit ici, c'est l'apparition de steps. Et ces steps-là, c'est explicitement, c'est le fait qu'on vient écranter charge par charge le système. Et donc, c'est l'apparition c'est-à-dire qu'au lieu que le système vient continuellement compenser la charge de surface, ça le fait charge par charge. C'est à la fois une évidence du point de vue de l'esprit, mais ça, c'est contre toutes les prédictions des modèles de type champ moyen usuel, Poisson-Boltzmann, etc. Et ça conduit à des pics de conductance, et ça, j'y reviendrai la semaine prochaine. Ça, c'est ce qu'on appelle le blocage de coulomb ionique. C'est comme le blocage de coulomb électronique, sauf qu'ici, on a un phénomène quantifié de conductance, mais purement classique. Et absolument pas quantique. Alors, j'aurais pas le temps de faire plein de trucs. C'est pas très grave. Mais je vais peut-être quand même discuter ça. Jusqu'ici, j'ai décrit l'extérieur, la membrane, comme un diélectrique. En pratique, si on regarde les électrodes, c'est du carbone, c'est plutôt des métaux, évidemment, parce qu'à un moment donné, vous devez récupérer de l'énergie. Donc, par exemple, dans les applications dont va parler Patrice juste après, on utilise très souvent des électrodes de carbone ou des matériaux conducteurs. Et évidemment, là, on passe dans une situation qui est encore différente de ce que j'ai décrite là. Parce que dès que... Dès qu'on met des charges dans le confinement, c'est-à-dire que ici j'ai par exemple un ion plus, et maintenant j'ai un métal, et donc si j'ai un métal, forcément si j'ai un ion plus, les électrons vont vouloir se balader ici autour pour venir écranter l'ion ici au centre. Alors, suivant les propriétés du métal, cet écrantage peut être parfait, imparfait. S'il est parfait, ici on résout dans le métal que on a laplacien de V égale à 0 dans le métal. En pratique, on a souvent de l'écrantage électronique, et donc par exemple un modèle qu'on appelle dit Thomas Fermi nous dit que on a l'écrantage sur une certaine échelle de longueur, xi Thomas Fermi, qui est l'inverse de cet écrantage et qui dépend des propriétés électroniques. Donc ça, notamment, par exemple, ça a été beaucoup étudié par... le système parfait a été étudié beaucoup par Mathieu Salane et Benjamin Rothenberg, notamment en lien avec des expériences de Patrice. Et ça a conduit, en fait, au développement d'un, un code de calcul de dynamique moléculaire qui prend en compte les charges, metal walls, et qu'ils ont récemment étendu au cas Thomas Fermi, qui prend en compte l'écrantage Thomas Fermi au sein des métaux. Et pourquoi, d'ailleurs, est-ce que c'est important de prendre ce Thomas Fermi ? Ça, alors, je vais vous montrer ici juste un exemple d'expérience qu'on a fait au laboratoire. C'est des expériences à FM, donc de Jean Comté, pendant sa thèse. Des expériences à FM de liquide ionique. Donc liquide ionique, c'est typiquement des ions purs, mais dont le cation et l'anion sont suffisamment différents pour que ça ne cristallise pas à température ambiante. Dans ce système-là, donc, c'est une expérience à FM, donc il y a une pointe et une surface, et on a ces ions purs ici à l'intérieur. Alors, en fait, si vous regardez ce liquide ionique, ça ressemble à de l'eau un peu plus visqueuse, mais pas grand-chose de différent. Et il se trouve que quand on faisait ces expériences, donc on réduit la taille ici du gap, il y avait une taille minimale à partir duquel le système répondait comme un solide. Et cette taille minimale, on était sûr que on n'était pas au contact, c'était encore assez loin du contact. Et en fait, ça correspondait au fait que le système passait d'un état liquide à un état où, ici, c'est un bloc. Donc, notre interprétation, c'est qu'il y avait sous le confinement, il y avait une cristallisation, ou en tout cas une tentative de cristallisation du système. Et donc ça, c'est une transition. On l'a décrit par ce qu'on appelle le Gibbs-Thompson, c'est-à-dire c'est une cristallisation induite par le confinement. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que cette transition dépendait énormément de la propriété électronique, de l'écrantage électronique, en fait. C'est-à-dire que ici, si vous décrivez ça par un écrantage de Thomas Fermi, donc une longueur de Thomas Fermi qui caractérise, qui est différente, par exemple, pour HOPG, le platine et du silicone dopé, en fait, ce qu'on voyait, c'est que cet effet, c'est-à-dire la longueur à laquelle, ce que j'ai noté ici, lambda, la longueur à laquelle ce système devenait plus ou moins cristallin, augmentait lorsque ce paramètre de Thomas Fermi devenait de plus en plus grand. Donc le système s'approchait de plus en plus d'un métal. Et avec une prédiction comme ça. Alors, je ne vais pas décrire tout cette comment on a pu décrire l'impact de ce Thomas Fermi sur l'état du système ionique confiné, mais l'idée c'est d'aller regarder comment les tensions de surface dépendent justement des interactions électroniques. Alors ça c'est vraiment le même point de vue adopté par Mathieu et Benjamin dans leur simulation, c'est-à-dire comment tout cet écrantage électronique influence les propriétés ici du liquide, et vous voyez que ça forcément ça va impacter les propriétés du fluide à l'intérieur. Alors je ne vais pas décrire malheureusement les confinements d'interaction, ça m'aurait plu parce que ça fait appel aux fonctions de surface que j'avais introduites la dernière fois. Mais une limite qui est intéressante, c'est la limite où justement ce système est un métal pur. Et parce que ça, donc je rapporte ça, parce que ça a été décrit notamment par Kornichev avec Kondrat il y a quelques années. Ils avaient fait une prédiction selon laquelle, à cause des effets de charge image, parce que ça, dès qu'on a ça, on a en gros, on a une charge image ici, ben le système, si on a une charge image qui sera plutôt négative ici, deux charges positives, on pourrait imaginer qu'elles pourraient, de façon effective, entre guillemets, s'attirer. Et donc, c'était une de leurs prédictions. À cause des effets d'écrantage ici dans le métal et les effets associés de charge image, on peut en fait augmenter considérablement le packing des ions. Et ça, c'était un point que Patrice, vous avez re-regardé après derrière, par des expériences qui mettaient en évidence le fait que, effectivement, il y avait un packing anormal et notamment la possibilité d'avoir des paires de mêmes signes qui se rapprochaient considérablement dans ces systèmes. Donc voilà, donc ça, Pour aller plus loin que ça, il faut reprendre les choses un peu plus en détail. Ce que je n'ai pas décrit ici et ce que j'aurais aimé décrire, c'est que, en fait, ça c'est le point de départ et c'est ce qui nous intéresse actuellement. C'est-à-dire que là, je vous ai pris un métal parfait, un métal de Thomas Fermi. Mais en fait, on peut imaginer plein d'autres types de métaux et dont on connaît les propriétés électroniques. Et donc, en fait, si vous vous donnez un système qui a des propriétés électroniques, disons, un peu exotiques, qu'est-ce que ça va induire pour les ions à l'intérieur ? Et donc la question, c'était comment formellement on pouvait l'aborder. Et ça, maintenant, on sait le faire, en tout cas a priori, par un formalisme là qu'on a introduit, et c'est que notamment Nikita Kavokin qui a introduit ça dans sa thèse. Et ça, maintenant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire ça, c'est-à-dire prendre les propriétés électroniques d'un système, vous donnez l'énergie en fonction de K, et de ça, on peut en déduire l'interaction entre les ions et voir si éventuellement ces ions vont avoir un packing à l'intérieur de ce port plus important ou pas. Donc ça, c'est typiquement du work in progress. Et là, je vous l'ai présenté évidemment sous une forme très théorique, mais en pratique, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est de le faire expérimentalement. Et expérimentalement, je vous ai montré que maintenant, on sait fabriquer ces systèmes bidimensionnels et aussi les nanotubes. Eh bien, on peut en fait moduler ces différents systèmes et utiliser des métaux avec des propriétés un peu exotiques et puis voir quel est le confinement à l'intérieur. La question qui reste quand même et qui nous bloque expérimentalement, c'est qu'on ne sait pas mesurer en fait la concentration des ions à l'intérieur pour l'instant. Donc tout à l'heure je disais voilà il y a deux perspectives tamisage, c'est qu'on veut un coefficient de réjection le plus proche de 1. La perspective stockage, c'est qu'on veut augmenter au maximum la concentration à l'intérieur, donc ça R tend vers en tout cas que ce coefficient là entre guillemets tend vers l'infini. La question c'est combien il y en a à l'intérieur. Alors, et je pense que Patrice va reparler de ça, mais un des points qui avait été marquant à l'époque, c'est que ils avaient montré que avec Yuri Gogotsi, que dans certains matériaux de carbone, la capacité du matériau carbone explosait pour des tailles de pores extrêmement faibles. Et ça se voit ici dans capacitance en fonction de la taille du pore qui augmente considérablement à très petits rayons. Mais ça, c'est typiquement ça qu'on voudrait être capable de mesurer dans les systèmes modèles. Et savoir est-ce qu'on est capable de dire qu'il se passe des choses dans ces zones-là, parce que ces zones-là, on sait maintenant les atteindre, entre guillemets, plus ou moins facilement. Et là, dans les expériences sur des matériaux comme ça, on peut, en fait, par exemple, avec la RMN, mesurer combien il y a d'ions à l'intérieur. Nous, ici, sur nos systèmes, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ça reste des questions ouvertes. Donc, en fait, je crois que je vais devoir supprimer toute une partie, mais c'est pas très grave. Donc le bilan du tamisage, donc finalement j'ai parlé essentiellement de tamisage, je voulais parler aussi de beaucoup de transport, mais j'aurai pas le temps. Le bilan du tamisage, c'est que déjà l'image en fait est assez réductrice, et parce que finalement il y a énormément, ça va bien plus loin que simplement dire c'est un effet stérique, ce qui apparaît souvent dans les littératures. Donc dans le tamisage, qui est à mon avis beaucoup plus intéressant, c'est les jouer sur les propriétés électroniques du confinement, sur les fluctuations, ça c'est ce que j'ai montré la semaine dernière, et les effets de corrélation ionique, ça c'est ce dont je vais parler la semaine prochaine, et surtout bénéficier des plateformes 1D et 2D. Et je crois qu'en fait, c'est un bon moment pour s'arrêter, et parce que j'avais beaucoup d'autres choses à parler, mais je n'en parlerai peut-être la semaine prochaine ou peut-être pas. Voilà. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.